vous invite à vous lever, nous allons confier Laetitia Calmène à la Sainte Vierge. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Sainte Vierge Marie, nous te remercions du soin que tu prends de cette théologienne. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alors, joie de vous retrouver parce que cette fois-ci, comme on vient de prier les vêpres de l'Immaculée Conception, nous sommes entrés dans la solennité de cette fête qui est très belle et qui nous rappelle la plénitude du salut que Dieu veut nous donner ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle on vous a proposé de cheminer à travers les sacrements. Ces sacrements qui représentent pour nous la voie ordinaire de ce salut. Comment est-ce que l'Église veille sur nous, nous transmet ce salut à travers chacun des sacrements. Et hier, nous avons abordé le sacrement qu'est l'Église. Comment est-ce que l'Église, le peuple de Dieu, transmet à travers son attachement au salut, à travers son enracinement dans l'Eucharistie, à travers la façon dont chaque membre vit du salut de Dieu, comment est-ce qu'il transmet ce salut, et en particulier à travers les petits et les pauvres. Vous vous rappelez, les petits et les pauvres sont pour nous la porte du salut. Et je voudrais continuer la réflexion à partir de là. Alors cette fois-ci, le sujet qu'on va aborder est... Vous savez, à chaque fois, j'ai l'impression d'ouvrir des portes qui me dépassent complètement parce que c'est des sujets un peu inépuisables. Donc, cette fois-ci, on va un peu creuser la liberté chrétienne, ce qu'est la liberté chrétienne. On va essayer de découvrir ce que cela veut dire. Donc, il est beau de se dire qu'on est sauvé et qu'on peut participer à ce salut, mais comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Donc, on va creuser cette voie-là. Donc on a abordé hier, comme je le disais, la relation avec les petits et les pauvres qui nous ouvre de façon toute particulière la voie du salut parce qu'ils nous amènent, à travers ce qu'ils vivent, aux périphéries de notre propre humanité. Et c'est à chaque fois qu'on est un peu face à nos limites parce que la personne démunie, la personne pauvre, me met souvent devant ma propre impuissance, et c'est heureux qu'il en soit ainsi. On voit à quel point ce qui nous rassemble fondamentalement, humainement, c'est le salut. Donc le pauvre comme sacrement du salut, c'est ce qu'on a abordé hier. L'Immaculée Conception, vous savez que c'est le mystère que l'on célèbre particulièrement à Lourdes. Cette Vierge Marie qui est apparue à Bernadette, et Bernadette dit d'elle-même, si la Sainte Vierge avait trouvé quelqu'un de plus pauvre encore que moi, c'est elle qu'elle aurait choisi. C'est assez intéressant comme approche. Pourquoi est-ce que la Vierge Marie prend elle aussi ce chemin de la pauvreté? Ça nous ramène à l'Immaculée Conception. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue cet été. Je suis allée avec mon frère Grégory, qui est trisomique, qui a aujourd'hui, il a 42 ans. Et donc, compte tenu de la trisomie, il vieillit extrêmement vite. Donc, il est un peu sourd, il a de l'arthrose, il marche très très mal. Et donc, ses capacités de voyager sont de plus en plus limitées. Mais il y a une chose à laquelle il tient vraiment, c'est son pèlerinage annuel à Lourdes. Et donc cette fois-ci, il ne pouvait pas prendre le car parce que c'était trop douloureux pour lui. Et donc je suis allée avec lui en train. Alors vous arrivez en train à Lourdes et de loin, vous voyez en fait la grotte avec la Vierge. et je vois le visage de Grégory en regardant la grotte, mais complètement s'illuminer, s'éclairer. Et je me dis, mais c'est incroyable, il me donne de découvrir au fond cette grâce de l'Immaculée Conception, celle qui a été conçue sans péché et celle qui peut accueillir toutes les pauvretés. Et donc quand Grégory va à Lourdes, il se sent infiniment accueilli. Il se sent accueilli par le cœur d'une mère, mais le cœur d'une mère qui lui transmet un amour infini. Et donc il y trouve un peu sa maison. Alors ce mystère de l'Immaculée Conception, il s'éclaire entre autres à travers le mystère de la croix de Jésus. Lorsque Jésus dit à Marie dans l'évangile selon saint Jean, « Femme, voici ton fils ». Donc on sait que Marie a accueilli Jésus, elle a dit, en écoutant l'annonce de l'ange, d'une certaine manière, elle a dit « Voici, voici mon corps, ceci est mon corps, puisqu'il a pris chair de sa chair ». Donc, elle a accueilli Dieu en elle, et voilà qu'à la croix, elle accueille, à travers son Fils, toute l'humanité. C'est ainsi que Jésus s'adressera aux disciples bien-aimés, « Fils, voici ta mère ». Alors, pour vous parler de la liberté chrétienne, il n'y a pas de mystère plus beau que celui-là. Comment est-ce que la Sainte Vierge, comment est-ce que la mère de Jésus, parce qu'elle est préservée du péché, devient totalement disponible non seulement à l'amour de Dieu, mais à l'amour humain. C'est parce que le disciple bien-aimé se laisse aimer et aime de l'amour de Dieu qu'elle devient mère de ce disciple. Alors en quoi est-ce que cela concerne notre liberté chrétienne? On a déjà pas mal parlé de la fraternité à laquelle on est appelé les uns vis-à-vis des autres, mais peut-être que plus profondément on peut essayer de réfléchir comment cette fraternité suppose un enfantement au salut. Comment est-ce que, face à mon frère qui peut être en souffrance, ou bien peut-être que je suis face à un frère joyeux qui est face à des réussites et qui est dans l'action de grâce, mais comment est-ce que mon être chrétien l'accompagne à travers tout ce qu'il vit? Comment est-ce qu'on rend grâce à la fois pour les joies, pour les réussites, et comment est-ce qu'on discerne l'action de la grâce là où c'est plus difficile, là où c'est plus compliqué, là où il y a de la souffrance? Comment est-ce que cette action de grâce m'entraîne dans un mystère d'enfantement? Notre vocation profonde, mes amis, c'est de mettre Dieu au monde. C'est ça la vocation du chrétien. Comment à travers notre écoute, comment à travers nos paroles, comment à travers nos actes, comment à travers nos attitudes, on met Dieu au monde, à travers notre propre vie, à travers les grâces qui nous sont faites, à travers les épreuves, et les épreuves nous amènent toujours à creuser plus profondément, et donc il s'agit toujours et encore d'entrer dans cette grâce de l'enfantement. Alors peut-être pour être plus précis, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que cette grâce de l'enfantement? Bien, je pense que dans nos vies, chacun de nous, on a des choix à faire, des choix tout simples qui animent notre quotidien, et puis des choix parfois plus difficiles, changer de travail, changer d'habitation, je ne peux plus payer mon appartement, comment est-ce que je vais pouvoir continuer demain? Ce sont des choix très concrets. Et ce qui m'étonne parfois, c'est que les bons chrétiens que nous sommes et que je rencontre régulièrement me disent parfois mais en quoi est-ce que ça concerne Dieu? En quoi est-ce que tous ces choix que je dois faire au quotidien concernent Dieu? Parce que souvent la question que l'on se pose par rapport à ces choix, c'est qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Ça c'est notre question qui nous habite. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais poursuivre? Etc. etc. Or, la Bible nous enseigne qu'il ne suffit pas de poser la question « Que dois-je faire ?» Quand le jeune homme riche vient voir Jésus, il est plus précis que le « Que dois-je faire ?» Le « Que dois-je faire ?» il est un peu païen. C'est toujours le risque qui nous guette, c'est être chrétien, aller à la messe, se dire « Ben voilà, je vais à la messe, je vais me confesser, etc. Mais dans ce que je vis concrètement, est-ce que je suis chrétien jusque-là? Et quelle est la question que pose le jeune homme riche? Il ne dit pas simplement « Que dois-je faire à Jésus ?» Que dit-il? Il dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Alors, cette adresse « Maître » est assez belle. En fait, la première chose qu'il fait, et Jean-Paul II souligne cela avec énorme force, il dit « Mais il se tourne vers le Christ. Est-ce que dans l'épaisseur de notre quotidien, à la suite du disciple bien-aimé, à la croix, vous savez, à la croix, pour le disciple bien-aimé et pour Marie, tout était perdu. Le plus grand don qu'il leur ait fait était marqué par la mort. Tout était perdu. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Même quand on est face à une impasse, quand on a l'impression que tout est perdu, il y a cet acte de foi qu'on a la grâce de pouvoir poser. Pourquoi est-ce qu'on a la grâce de pouvoir le poser? Parce que le Christ est mort et ressuscité. Plus profondément que la mort, il y a la vie du ressuscité. Et donc, je suis amenée à poser un acte de foi qui vient m'éclairer sur toutes les dimensions de ma vie. Ça, c'est la condition première pour entrer dans ce qu'on appelle la liberté chrétienne. Se tourner vers le Christ qui a donné sa vie pour moi et qui, à travers le don qu'il me fait, m'ouvre un espace inouï, un espace que je n'avais pas imaginé. Donc, maître, que dois-je faire de bon? Vous voyez que la question morale, c'est pas entre le bien et le mal, qu'est-ce que je dois choisir? Non, non. À la lumière de Jésus, c'est très beau, c'est que dois-je faire de bon? Nous sommes créés bons, la création est bonne. On l'a vu quand on a abordé, entre autres, la vocation au mariage, le sacrement du mariage. Vous vous rappelez, nous sommes créés à l'image. Cette image qui nous réfère à la communion divine, ça veut dire que nous sommes créés de l'intérieur de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à communiquer cet amour. Donc on est fondamentalement créés bons, mais Dieu va jusqu'à dire on est créés très bons. Il y a une très grande bonté qui nous traverse. Sauf que cette bonté, elle a été un peu, même beaucoup, abîmée par cette séparation qui s'est inscrite dans notre relation à Dieu à cause du péché. Et donc, la bonté ne nous est peut-être pas aussi co-naturelle qu'elle l'était avant le péché. Et donc, Dieu continue de faire alliance avec son peuple. Il a créé, il a donné la vie. Il lui dit, soyez féconds, soyez féconds. Et après le péché originel, il y a cette très belle parole qui résonne, mais Adam, où es-tu? Dieu vient chercher l'homme là où il s'est perdu pour lui permettre de se retrouver. On est toujours un peu en chemin, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Il faut qu'on retrouve l'essence même de notre humanité qui fondamentalement est bonne. Et comment est-ce qu'on retrouve cette essence même de notre humanité qui est bonne et qui est faite pour le bien? On est bon et on est fait pour le bien à travers la conscience. On a une conscience humaine, on a une aptitude qui nous permet de poser des jugements par rapport aux situations dans lesquelles on se trouve et pour nous orienter par rapport au bien. D'accord ? Donc quand je dis maître, que dois-je faire ? Je laisse le Christ éclairer ma conscience qui a été blessée par le péché, mais il me dit, mais moi je t'aime plus profondément que le péché originel et que ton péché personnel. Et donc notre agir est amené à consonner avec cet amour qui est plus profond que notre péché. Et donc ça, c'est ce que on vit lorsque on engage notre conscience. Alors la conscience, ce n'est pas simplement qu'est-ce que je pense intellectuellement. Là, je vois la situation intellectuellement, c'est ça que je pense. Non, non, la conscience, elle nous engage entièrement. Elle engage ce que l'on ressent, ce qui nous affecte, ce que l'on imagine, ce que l'on peut rêver. Et puis elle engage notre raison, parce que notre raison nous permet de nous rappeler ce que Dieu a fait de bon dans notre vie, nous rappeler le bien, qui nous habite et qu'on est appelé à faire grandir. Donc la conscience engage toutes les dimensions de notre humanité dans notre relation à Dieu qui nous aime, qui nous donne la vie, dans notre relation au Christ qui est mort et ressuscité. Et cette relation au Christ ne cesse de se creuser au fur et à mesure. En fait, la vie chrétienne est une aventure incroyable. Tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix. Alors, ça peut être assez banal si je mesure mes choix à ce que je comprends, ce que je vois humainement. Mais si je mesure le choix que je pose à l'amour du Christ pour moi, là, ça commence à devenir intéressant. Là, ça commence à devenir un lieu de libération et de liberté pour autrui. Donc, la vie chrétienne, nous en sommes profondément responsables. On a reçu énormément de dons, on a exploré ces dons à la lumière des sacrements. On a reçu la Bible, la parole de Dieu, qui vient nous éclairer. On reçoit la fraternité, la charité. On reçoit la grâce du pauvre qui vient nous éclairer profondément. Mais je tenais de terminer, il me semblait important de terminer ce parcours en vous rappelant que le plus beau don que l'on reçoit à travers l'Eucharistie, c'est Jésus mort et ressuscité qui nous configure à ce qu'il est fondamentalement, ça veut dire sans péché. Et donc la grâce de l'Immaculée Conception, le fait d'être créé sans péché, eh bien on peut y participer. On peut y participer. Alors, mais c'est pas une participation passive. C'est une grâce qu'on reçoit, mais il s'agit de la faire grandir à travers l'engagement de notre liberté, à travers les choix que l'on pose, à travers le fait de faire grandir le bien. Alors, ce matin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir de près ou de loin l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame, mais on voit ô combien notre monde et nous-mêmes, on a besoin de beauté, on a besoin d'espace qui nous disent la beauté du mystère du salut. Et ô combien cette cathédrale est magnifique. Je ne sais pas si Antoine, tu l'as peut-être déjà aperçue, mais elle doit être magnifique. Et pourtant, c'est ce que je vous disais hier aussi, votre âme, chacune de vos âmes, à la lumière de Dieu, est plus belle encore. Donc c'est assez incroyable de se dire que cette cathédrale, on la trouve magnifique, mais qu'en fait, chaque visage humain, il n'y a pas d'exception, l'âme du pire des meurtriers, à la lumière de Dieu, parce qu'il est infiniment aimé de Dieu, est fort d'une beauté qui est plus grande encore que la cathédrale. Vous savez, si les cathédrales s'édifient, c'est pour dire quelque chose de la beauté qui nous habite. Donc cette beauté qui vient aussi former notre conscience. On a besoin de beau, on a besoin de bon, on a besoin de vérité, on a besoin des vérités. Et ce sont des choix qu'on a à poser concrètement. Donc il n'y a pas de liberté chrétienne sans référence au Christ, sans engagement de sa conscience par rapport à la loi que Dieu nous donne, par rapport au Christ, et puis sans vie fraternelle à travers lesquelles on peut contempler la beauté du visage de l'autre, la bonté, la vérité. Alors je m'arrête un peu sur la notion de vérité, parce que plus que jamais, bon, on l'éprouve là peut-être plus que jamais, c'est que notre société est très, très déstabilisée en ce moment. On voit bien en France, mais on voit aussi ailleurs, et il y a une grande question qui touche à notre rapport à la vérité. Quand on ouvre le téléphone et qu'on va sur etc., on dit mais quelles sont les informations qui sont vraies ou pas, et on voit à quel point l'information aujourd'hui, elle est souvent à distance de la vérité. De ce point de vue-là, la vocation chrétienne peut apporter quelque chose d'original, de très profond. Cette recherche de vérité à travers votre vie. Alors vous savez, vous connaissez la question, qu'est-ce que la vérité? C'est une question qu'on peut se poser quand même. C'est quoi au final la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate pose à Jésus au moment où il entre dans sa passion. Donc il a la couronne d'épines, il a le manteau de pourpre, et Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Et à ce moment-là, Jésus ne répond pas, mais l'évangéliste nous donne de contempler à ce moment-là Jésus qui donne sa vie. Voici l'homme. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce Christ qui donne sa vie. Et donc c'est lui qui vient nous éclairer sur la vérité de notre vie, sur la bonté de notre vie, sur la beauté de notre vie. Donc j'espère qu'à travers ce parcours, il y aura eu ce chemin d'approfondissement par rapport au Christ, par rapport à la vie de l'Église, à travers ces différentes vocations. Voilà ce que j'avais à vous dire, et en vous remerciant infiniment de votre écoute. C'était un beau rendez-vous de vous retrouver presque chaque soir, parce que ce que je peux dire, c'est grâce à votre écoute, à votre visage, à votre prière, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on s'engendre les uns les autres. Et donc quand on fait ce travail de conscience qui consiste à chercher le vrai, chercher le bien, chercher le beau, on s'engendre les uns les autres. Et c'est un mystère, mais magnifique. Voilà, cette vérité qui est que le Christ donne sa vie pour nous, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, cette vie, on est toujours libre de la recueillir pour la communiquer. Et c'est le lieu de notre joie. Et donc, c'est ce que j'ai vécu avec vous. J'ai ouvert ce que j'ai communiqué, c'est ce que j'ai recueilli en vous regardant. Et donc, ça m'a profondément réjouie et rendue heureuse de participer, de vivre avec vous cette neuvaine vers l'Immaculée Conception. Et comme il s'agit quand même d'une belle fête, je me permets de vous la souhaiter déjà. Donc, il y aura la messe demain. Et ce soir, je crois que c'est la messe du dimanche que l'on va célébrer, du coup, ensemble. Merci de votre attention.